Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
She saw a lot of beauty in the world and I don't think it's the kind of beauty she'd like to leave.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Au Canada, plus de 71 000 personnes sont portées disparues chaque année.
C'est le cas d'Emma Philipoff, cette jeune Canadienne disparue une soirée froide de novembre 2012.
Cette histoire est une des plus populaires sur le web et des internautes de partout tentent de suivre sa trace.
S'est-elle enlevé la vie ou a-t-elle été victime d'un homme obsédé par elle? Suivez-nous alors que nous tentons de résoudre le mystère d'Emma.
Bonsoir Émile Gauthier, comment vas-tu?
Ça va très bien Sébastien Lévesque. Aujourd'hui, on a une histoire qui est quand même assez passionnante, oui. L'histoire d'Emma Philipoff. C'est pas un hasard si on vous en parle aujourd'hui, parce que ça va faire 5 ans, oui, ce mois-ci, donc novembre 2017, que Emma Philipoff, cette jeune femme originaire de Perth, Ontario, mais qui est disparue dans les environs de Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. Donc ça va faire 5 ans ce mois-ci qu'elle est disparue. Son histoire est toujours irrésolue, empreinte de mystère. Honnêtement, il y a plein de théories, il y a plein de, comment dire, de scénarios possibles, il y a plein de traces laissées sur le web aussi. Donc, on va se plonger là-dedans. Seb, toi, comment t'as trouvé ça, enquêter sur l'histoire d'Emma Philipoff?
Ça m'a un peu troublé, je te dirais, au niveau du nombre de disparitions. Entre autres, en premier lieu, là, c'était vraiment, je pensais pas qu'au Canada, seulement 71 000 personnes par année pouvaient disparaître. Mm-hmm. Déjà là, ça m'a un peu ébahi, parce que dans notre quotidien, c'est rare quand même qu'on côtoie, on les entend quand les importants qui passent aux nouvelles et tout ça. Mais c'est quand même rare. En tout cas, j'ai été chanceux peut-être dans ma vie, j'ai jamais côtoyé une personne, ou du moins quelqu'un de son entourage qui est disparu, ou du moins qui a été porté disparu à un certain moment. Au niveau d'Emma, en fait, comme tu le disais, on parlera pas de toutes nos thèses pour ne pas divulgâcher l'épisode, mais c'est vrai que dans toutes les théories ou les hypothèses, on peut jamais arriver à une conclusion, disons, qui nous satisfait ou qu'on dit « Ah oui, c'est sûr que c'est ça. »
Exactement.
Parce qu'il y a trop d'éléments mystérieux, il y a trop de trous d'informations qui nous permet vraiment de conclure à quelque chose de crédible. C'est impossible de disparaître complètement, mais et c'est difficile de refaire sa vie aussi. Là. Tu sais, je veux dire, disparaître, c'est une chose, mais de refaire sa vie sous une autre identité, c'est une autre paire de manches aussi. Donc, ça reste toujours mystérieux. Ce qui est triste là-dedans, en fait, c'est les familles, l'entourage, oui. Parce qu'ils peuvent jamais faire un deuil complet. Moi, c'est surtout ça qui m'attriste, même dans tous les cas de disparition, mais particulièrement dans le cas d'Emma. C'est sa mère, entre autres, qui mène, là, vous allez voir, là, qui mène de front
la recherche
continuellement. Là, c'est une
encore aujourd'hui même.
Oui, c'est une femme avec énormément de courage et elle peut jamais faire le deuil de ça. On n'a pas, il y a pas de corps. Donc, tu peux jamais te faire une conclusion dans ta tête.
Et pour passer au travers ça, on a une bonne bière qui nous est offerte cette semaine par Martin via la tournée de bière sur notre site web. Donc, si vous voulez encourager le show et nous faire boire des bonnes bières de votre région, de bonnes suggestions de votre part, vous pouvez le faire au distorsionpodcast.com sur l'onglet tournée de bière. Vous allez là et puis vous pouvez offrir une bière à moi et à Seb. Et nous, eh bien, ça va nous faire plaisir de boire ce que vous nous suggérez. Vous pouvez le faire dans les instructions PayPal, entre autres. Et qu'est-ce qu'on boit, Seb, aujourd'hui?
Aujourd'hui, on boit une bière de l'Ontario. On déroge un peu, on s'en va dans le Rock, the rest of Canada, pour boire une bonne IPA. On est revenu à nos bonnes habitudes pour cette semaine. C'est la Ox Tongue, en fait, qui est brassée par le Lake Base Brewing, qui est situé justement à Baysville, en Ontario. C'est une bière de 6,2% d'alcool. Elle penche beaucoup vers la blonde, la lager. Je trouve qu'elle se boit très bien, sans laisser... Tu sais, souvent, des IPA, il y en a qui laissent une amertume en bouche longtemps, oui. Puis une genre d'épaisseur. Elle est très... elle est pas comme de l'eau, mais presque.
Merci à Martin pour cette bonne tournée de bière. Aussi, on a un shout-out, quelqu'un nous a laissé une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans ce cas-ci, c'est Den1138, donc peut-être Denis du Canada. Merci à toi, Denis. Il nous dit « J'adore le volet mystère. C'est bon, vous êtes solide. Je vais toutes les écouter dans mes transports en commun. » Donc, merci à toi, cher ami. Merci de nous encourager sur Apple Podcast ou peu importe où. Ça fait toujours du bien et ça encourage le show.
Petite nouveauté aussi, si vous voulez être avisé par le site web à chaque fois qu'on lance un épisode, là, je sais que si vous êtes abonné à notre podcast, vous avez pas systématiquement, vous pouvez avoir une notification, mais si vous voulez savoir exactement à la minute que l'épisode est diffusé en ligne, maintenant, peu importe votre navigateur, sauf Edge de Microsoft, mais il y a personne qui utilise ça, donc si vous avez Chrome, Safari ou Firefox, rendez-vous sur distorsionpodcast.com et lors de votre entrée sur le site, vous allez avoir une demande de votre navigateur pour autoriser les notifications. Et donc, nous, actuellement, à chaque fois qu'on va publier un épisode, vous allez avoir une notification sur votre ordinateur. Vous ne pouvez pas manquer un épisode grâce à ça.
Et aussi, on vous invite à poursuivre la discussion sur notre groupe Facebook. Donc, après l'épisode, vous pouvez vous rendre sur le groupe de discussion de Distorsion Podcast, facile à trouver sur Facebook, sur notre page, sur notre fanpage. Et puis là-dessus, vous nous faites une demande pour rejoindre le groupe. On vous accepte et puis vous pouvez vous faire de nouveaux amis, discuter, prendre part au sujet. Puis moi et Seb, on va y faire des tours quand même assez souvent. Là-dessus, Seb, là, on a tout dit. Là, est-ce qu'on est prêt à se lancer sur la trace d'Emma Filipov?
Oh yeah!
Allons-y. Le 28 novembre 2012, la police de Victoria, en Colombie-Britannique, est interpellée pour une intervention près de l'Empress Hotel vers les 19h et 20h, je dirais. Il rencontre sur place Emma Filipov, une jeune femme de 26 ans, blonde, habillée de vieux vêtements avec plusieurs sacs sur elle, donc des sacs de plastique, des sacs à épaules. Elle est alors pieds nus en cette froide soirée de novembre, un peu comme maintenant, comme la température actuelle, si on veut. Sa Mazda rouge, qui est une voiture MPV, là, on sait, une genre de minivan Mazda, qui date de 1993, a été retrouvée dans le stationnement du Château Victoria, donc tout près, avec la plupart de ses effets personnels, c'est-à-dire son passeport, on y trouve aussi sa carte de membre de la bibliothèque municipale et des livres qui ont été empruntés dernièrement. On trouve aussi sa caméra numérique, ses vêtements, un oreiller, tout ce qu'il faut en fait pour dormir, quelques bijoux et, le plus important, son ordinateur portable qui est retrouvé dans sa voiture. Elle semblait utiliser sa minivan pour entreposer des biens physiques. Le même matin de sa disparition, elle a discuté avec les employés du château Victoria, justement en raison de sa voiture qui devait être déplacée, qui ne pouvait pas rester sur place. C'est la dernière fois qu'elle sera aperçue. Les policiers vont discuter plus de 45 minutes avec elle et vont conclure qu'ils n'ont pas besoin de faire aucune autre action. La jeune femme a l'air triste, elle semble pas nécessairement dans un bon état mental, mais elle ne semble pas être en danger envers elle-même.
Exact.
Elle ne semble pas suicidaire, elle ne semble pas sous l'effet de la drogue. Donc, les policiers, après une longue discussion, jugent que c'est correct, comme ça, ils peuvent passer à un autre appel.
Parlons un peu d'Emma. Emma Filipov est née le 6 janvier 1986 et elle est originaire de Perth, en Ontario, au Canada, bien sûr. Emma, c'est vraiment une belle fille, une grande blonde qui est athlétique, magnifique. En fait, c'est, comme je vous dis, c'est vraiment une belle fille. Lorsqu'elle était jeune, elle aimait beaucoup les petites choses de la vie. Elle collectionnait les roches qu'elle trouvait sur le bord de l'eau, des feuilles, des fleurs séchées. Et elle aimait vraiment garder ça dans une petite boîte, là, une petite boîte verrouillée qu'elle a gardée avec elle la majeure partie de sa vie.
Toi, Seb, est-ce que t'as une boîte comme ça où tu gardes des souvenirs d'enfance, des choses?
Oui, en fait, oui, j'en ai une avec ma première suce, mon premier bracelet. C'est vrai, effectivement, mais c'est pas nécessairement des choses que j'ai collectionnées, mais c'est vraiment des étapes marquantes de ma vie, mm-hmm. comme ma première ceinture de karaté, des choses comme ça. Donc, mais je comprends, puis c'est vrai que cette boîte-là, à chaque déménagement, elle me suit constamment. Oui. Elle a trois frères et sœurs qui sont tous des bons athlètes, hyper compétitifs, mais Emma, elle est un peu le mouton noir de sa famille. Elle n'aime pas vraiment la compétition sportive. Elle va plutôt suivre c'est plus une artiste, elle va plutôt suivre des cours de danse. Par contre, elle va quitter la danse parce que son professeur lui demandait de faire la compétition et elle n'aime pas ça, compétitionner. Et non plus, elle n'aime pas vraiment la technologie, elle n'a jamais possédé de cellulaire. Au fil du temps, Emma a développé une passion pour les voyages. Emma, c'est quelqu'un qui est assez bohème, puis on peut quand même assez on peut l'apercevoir dans son look. Elle va porter de longs bandeaux, des foulards, elle va adopter un mode de vie simple. Elle va plutôt suivre ses intuitions et ses instincts pour prendre des décisions. C'est pas quelqu'un qui est très, très calculé et logique nécessairement dans ses prises de décision. À l'automne 2011, ses instincts lui disent de se diriger en Colombie-Britannique. Elle va d'abord se rendre à Campbell River, qui est situé sur l'île de Vancouver. Elle va travailler comme chef dans un pub qui s'appelle le Royal Coachman. Apparemment, elle est retournée quelque temps à Perth, sa ville d'origine, mais elle est revenue assez rapidement à Victoria, en Colombie-Britannique. Emma est chef de formation et elle a beaucoup d'expérience en restauration. Donc, naturellement, quand elle est atterrie à Victoria pour se trouver un emploi, elle a décidé quand même d'aller dans son domaine et de se trouver des petits boulots en restauration. Elle a entre autres trouvé un boulot au Redfish Bluefish, qui est seulement ouvert lors de la saison estivale. Là. Donc, on le sait, là, Victoria, c'est sur le bord de la mer. Donc, ils ont la chance de pouvoir profiter du seafood et de tous les produits de la mer. Mais c'est un restaurant qui est seulement ouvert dans cette période forte-là. Étant donné que l'emploi était saisonnier, elle a quitté l'emploi le 31 octobre 2012, donc quelques jours, disons quelques semaines avant sa disparition. Fait important, elle a mentionné à tous ses collègues qu'elle avait vraiment l'intention de revenir l'an prochain. Et je voyais que l'an prochain, souvent, c'est pas nécessairement à l'automne, qu'il y a même une saison au mois de février, si je me trompe pas, pour ça. Donc, c'est quand même dans un court laps de temps.
Ce coup de foudre pour l'Ouest canadien, là, pour Emma, est vraiment instantané. Là. Elle adore, comme tu l'as dit, c'est son instinct qui l'a un peu amené là. Elle adore la nature, la proximité avec la mer, le mode de vie aussi qu'on retrouve en Colombie-Britannique. À Victoria, il fait froid dans le mois de novembre, mais il n'y a jamais vraiment beaucoup de neige, comme par exemple à Montréal. Donc, ouais. C'est un climat qui peut devenir frais, mais qui est jamais là, tempête de neige, là, si on veut. Donc, c'est vraiment un superbe endroit. Puis Emma, qui adore les voyages, qui adore faire des road trips et tout ça dans sa minivan, mais c'est l'endroit parfait pour elle. Au niveau de sa vie sociale, si on veut, c'est quand même une fille extravertie. Elle se fait rapidement des amis dans la région de Victoria. Elle aime l'art, la culture. Elle se rend souvent au musée ou encore à la bibliothèque de la ville pour y lire, évidemment, et pour emprunter des livres. Elle fait de la photographie aussi. On l'a dit, on a retrouvé son appareil numérique dans sa voiture après sa disparition. Donc, c'est une adepte de photographie. On la décrit comme quelqu'un qui illumine la pièce dès qu'elle entre à quelque part par son sourire, sa beauté. Tu l'as dit plus tôt, Seb, c'est vraiment... Quand elle était petite, bien, était quand même assez cute, mais en devenant une jeune femme, elle est devenue vraiment très belle, des longs cheveux blonds, un beau visage, des beaux yeux, et puis un énorme charisme. Elle attire donc beaucoup le regard des hommes qui sont très souvent attirés par elle. On dit qu'elle a un peu de naïveté aussi, elle a un peu la naïveté d'un enfant. Elle va souvent faire des références à des fables pour enfants lorsqu'elle va écrire ou envoyer des lettres, par exemple, à ses amis ou même écrire dans son journal intime là, qu'elle entretient presque à chaque jour. Mais qui dit naïveté dit souvent aussi propice à la manipulation, on le sait, hein. Certains de ses colocs vont livrer plusieurs témoignages au fil du temps, là, suivant sa disparition. Entre autres, à Jordan Bonaparte du Nighttime Podcast. Si vous connaissez pas le Nighttime Podcast, c'est un des meilleurs podcasts canadiens.
Vraiment.
Jordan produit ce podcast-là à partir d'Halifax. Puis, il a dédié plusieurs épisodes au cas d'Emma Filipov. Donc, je vous recommande d'aller voir ça. Et il vient aussi de démarrer un podcast consacré exclusivement là-dessus. On vous reviendra plus tard. On devrait avoir Jordan en entrevue sous peu dans un épisode bonus de Distorsion. On vous revient là-dessus. Mais bref, Jordan a interviewé plusieurs des amis d'Emma et une de celles-ci, qu'on va appeler Mika, a été sa colocataire pendant 3 mois, là, un peu avant la disparition, donc quand même assez récent. Elle indique qu'au fil du temps, Emma a développé une insécurité puis une certaine anxiété. Elle devenait de plus en plus réservée, puis elle avait parfois des sautes d'humeur quand même assez intenses. Lorsqu'elle décrit la vie avec Emma et son amitié, surtout, Mika explique qu'entre autres, elle devait partir à un certain moment donné en road trip en Californie avec elle. Donc, on sait que la Californie du Nord est quand même facilement accessible lorsqu'on est dans la région de Victoria et dans l'Ouest canadien. Et que Emma, en fait, a annulé à la dernière minute pour des raisons un peu floues. Elle indiquait à Mika à cette époque-là que la vie lui indiquait de rester à Victoria, que c'est là que son avenir et son bonheur se trouvent. Et donc, en suivant son instinct, Emma va refuser de partir en road trip avec Mika, qui partira seule, malheureusement. Les deux copines vont quand même garder un lien d'amitié, ils vont s'envoyer des lettres et tout. Par contre, Mika ne reverra jamais Emma lors plus tard suite à sa disparition. Donc, triste événement ici. Mika, elle explique aussi lors d'une entrevue que Emma pouvait prendre de très très longs bains alors qu'ils étaient colocataires, des bains de plusieurs heures même, et qu'elle allait souvent prendre de très longues marches. Vous allez voir dans l'histoire d'Emma Filipov, il y a énormément de choses qui arrivent lors de très longues marches, même des marches de 6 à 7 heures, qui est quand même assez long, à tout moment, mais surtout de jour, mais de soir aussi. Il n'était pas rare qu'elle proposait à ses amis d'aller prendre des longues marches avec elle afin de discuter. Apparemment qu'elle ne semblait pas consommer de drogue et en fait, il y a deux de ses amis qui ont confirmé cette hypothèse-là, en fait, comme quoi elle n'était pas une grande consommatrice de drogue, même pas du tout. Mais par contre, apparemment qu'elle aimait beaucoup la vodka. Elle aurait toujours une bouteille dans le frigo au frais. À savoir, est-ce que c'était problématique? Je le sais pas, mais je crois qu'à un certain moment de sa vie, elle se réfugiait peut-être un peu là-dedans et apparemment qu'elle buvait seule aussi, entre autres, dans son bain.
Elle ne semble pas avoir de maladie mentale qui a été diagnostiquée, mais ses amis, par contre, remarquent qu'elle est de plus en plus isolée, un peu comme tu le disais. Elle croit constamment que quelqu'un la suit, donc il y a un peu de la paranoïa qui commence à embarquer. C'est basé sur les écrits de son propre journal intime. Mika explique que la diète d'Emma était très particulière et qu'elle était très sélective de ce que son corps absorbe. Elle ne mange pas de fruits, pas de légumes, parfois elle va manger seulement du poisson, mais la plupart du temps, ce n'est qu'un gros bol de popcorn. Donc, elle va perdre beaucoup, beaucoup de poids et ses amis vont quand même commencer à s'inquiéter de sa santé. Je peux comprendre, là, je veux dire, de manger seulement du maïs, c'est pas nécessairement oui. l'idéal dans une bonne diète, surtout si elle accompagne son maïs de vodka. On peut quand même figurer qu'elle a un déficit nutritif.
Il manque quelques groupes alimentaires.
Exact. Sans aviser sa famille, Emma est restée quand même on and off depuis février dans un refuge pour femmes qui s'appelle le Sandy Merriman. Et ça, c'est toujours été inconnu la raison qui l'a décidé d'aller se réfugier là, parce qu'elle semblait toujours avoir un endroit à habiter et des colocs. Donc, même elle a jamais arrêté d'habiter avec ses colocs, je me trompe pas.
Oui, elle a eu quelques colocs. Elle a fait aussi un peu de couch surfing. Donc, ouais. elle est dormie sur des canapés de différents amis. Elle ne semble pas avoir eu de domicile vraiment fixe, mais elle est toujours restée dans la région de Victoria. Et tout ce qu'on parle, en fait, ça se déroule sur un an seulement. Elle a quitté Perth en 2011. Ouais. Et là, on se retrouve là à l'automne 2012. Et donc, en un an, elle n'a pas non plus eu le temps de faire 10 résidences différentes, mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur de cette année-là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Emma Filipov, mais il s'est passé des choses, parce que son comportement à Perth semblait très extraverti, pardonnez-moi, et puis elle semblait maintenir une vie sociale, avoir un bon rythme de vie, une bonne forme physique. Par contre, tout semble avoir dégringolé dans cette année passée à Victoria. Tu l'as dit, elle a perdu beaucoup de poids. Selon l'avis de recherche, lorsqu'elle a été portée disparue, on indiquait qu'elle faisait 5 pieds 5 pouces de hauteur et environ entre 90 et 100 livres. Donc, c'est pas beaucoup. On parle de 50 kilos là, pour ceux qui sont plus... pour nos cousins européens qui sont plus familiers avec cette métrique, mais c'est particulier. Donc, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là. Un peu, comme tu le dis, avec de l'anxiété qui se développe, de la paranoïa. Je te laisse continuer, mais les choses ont même empiré.
Oui, elle avait quand même l'habitude de parler à sa mère régulièrement. Là. Comme on vous disait, elle a jamais eu de téléphone cellulaire avec elle. Elle était un peu contre la technologie malgré qu'elle utilisait le courriel pour communiquer avec ses proches. Et elle appelait régulièrement, en plus des courriels, mais elle appelait régulièrement sa mère à frais virés d'une cabine téléphonique généralement. Et tout se passait bien. Et à un moment donné, dans les jours qui ont précédé sa disparition, à chaque fois que Emma elle appelait, elle voulait revenir à la maison. Elle lui demandait si elle pouvait revenir à la maison. Sa mère, évidemment, elle lui répondait qu'il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème à ce qu'elle revienne à la maison, qu'elle avait toujours sa place chez elle. Par contre, à chaque appel qu'elle recevait vers la fin, on s'entend, c'est dans les derniers jours qui ont précédé sa disparition, le ton changeait complètement. Elle changeait complètement d'opinion. Elle lui disait « Oh non, je vais pas revenir à la maison ou t'as pas besoin de venir me chercher » parce que des fois, il y avait cet aspect-là de la discussion que sa mère aille la rejoindre pour aller la chercher. Et c'était vraiment étrange. Et lors du dernier appel, au lieu d'être un appel à frais virés, c'était un appel qui provenait du refuge. Mais le refuge s'appelle le Sandy Merriman. Donc, sur l'afficheur, ça affichait seulement Sandy Merriman. Sur le coup, sa mère, elle croyait qu'elle appelait de chez une amie. Donc, elle n'en a pas fait cas, mais ça lui a, elle a trouvé ça quand même étrange. Et étant donné que la conversation s'est conclue un peu bizarrement, là, comme on vous dit, elle a voulu rappeler au numéro pour reparler à Emma. Et c'est lorsque ça l'a répondu qu'elle s'est rendue compte que c'était un refuge pour les femmes. Non, elle n'était pas au courant de ça. Là, elle est devenue quand même assez en panique. Lorsque la discussion s'est conclue, les derniers mots d'Emma qu'elle a dit à sa mère, c'est « Je ne sais pas comment je vais faire pour vous affronter ». Donc, on voit que c'est quand même étrange. Là. Donc, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Là. Sa mère, elle arrive au refuge, écoute, elle prend l'avion, elle arrive au refuge vers 23h le 28 novembre, donc le soir même, là, elle a fait ça assez rapidement, 3 heures après qu'Emma ait été vue pour la dernière fois par la police à l'hôtel Empress, comme on vous parlait tout à l'heure.
Et c'est assez particulier parce que tout s'est déroulé dans une chronologie très rapide. Et moi, j'aime bien les histoires qui se déroulent sur une chronologie très rapide. Oui. C'est le cas, entre autres, de Maura Murray. Et on va y revenir un peu plus tard parce que c'est un cas qui nous intéresse à Distorsion. On est sur le dossier depuis un bon bout de temps. Mais tout s'est passé dans une journée, là, pratiquement dans un délai de 12 heures environ, là, du matin jusqu'en début de soirée, lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois par les policiers. Là, cette fameuse soirée froide du 28 novembre 2012. Et puis, ses derniers mots, En fait, les conversations qu'elle a eues avec sa mère, c'est vraiment inquiétant pour un parent lorsque tu parles à ta fille qui semble vraiment en panique comme ça. J'aurais fait pareil, je pense. Si c'était arrivé, moi aussi, j'aurais dit « quoi qu'il arrive, je prends l'avion puis je viens te rejoindre ».
Ah, c'est certain. Puis l'élément qui est encore plus difficile pour un parent, c'est la distance. Parce qu'elle est pas, elle habite pas à 20 minutes, une demi-heure de chez son enfant ou à une heure. Là, c'est faut prendre un avion. Donc, il y a un, je trouve que ça accentue du moins l'inquiétude parce que tu peux pas rien faire, du moins à court terme. Donc, ça doit vraiment amplifier tout ça.
Et sachant qu'elle habite dans un refuge pour femmes,
ah oui.
Sa mère doit se dire, ben coudonc, est-ce qu'elle a été battue?
Ouais.
Est-ce qu'elle s'est fait maltraiter? Est-ce qu'elle a eu un copain violent? Ou c'est très très inquiétant tout ça.
Oui, parce que qu'est-ce qui a motivé? Je veux dire, ils l'ont accepté aussi. Là, c'est pas n'importe qui peut rentrer dans un refuge pour femmes. Donc il y a eu un processus là. Je veux dire, c'est pas n'importe qui va là. Puis elle a sa chambre là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas vraiment.
On va revenir sur la chronologie du 28 novembre. On va décortiquer tout ce qui s'est passé cette journée-là pour en avoir une idée claire. À 7h AM, donc en matinée, très tôt le matin, c'est quand même assez tôt, là, 7h AM, Emma est debout et elle est aperçue, là, elle discute avec les employés du Château Victoria, puisque son Mazda MPV, puisque sa voiture, là, sa petite minivan, il serait fait remorquer, en fait. Elle avait garé sa voiture dans le parking là-bas, avec tous ses effets personnels à l'intérieur. Donc, elle est vue en train de discuter avec les employés du Château Victoria. 1h23 plus tard, à 8h23 en matinée, Emma a été capturée dans une vidéo de surveillance d'un magasin 7-Eleven, donc un genre de dépanneur, un genre de station d'essence, sur Government Street, en train d'acheter un téléphone cellulaire prépayé. La vidéo a montré qu'elle hésitait à quitter le magasin. Puis là, c'est un peu une vidéo troublante, si
oui.
On veut. Elle semblait constamment vérifier à l'extérieur. De un truc un peu weird, c'est que c'est une fille qui a jamais possédé de téléphone cellulaire. Donc, pourquoi, soudainement, elle va dans une station-service s'acheter un téléphone prépayé? C'est un peu louche, comme ça, d'entrée de jeu, le matin même. Elle savait à ce moment-là que sa mère était pour venir la rejoindre à ce moment-là.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Donc, est-ce qu'elle prévoyait une fuite? On ne sait pas trop. Mais elle s'est acheté un téléphone, donc elle a quand même payé un certain montant, ce qui laisse croire qu'elle avait de l'argent en banque, Emma, finalement.
Oui.
Dans la vidéo de surveillance, en fait, on la voit faire la transaction. Elle est vêtue un peu comme des pantalons quand même assez larges, qui font un peu style bohémien, avec une tuque, avec ses longs cheveux,
oui.
Un foulard, tout ça, plusieurs sacs, encore une fois, des genres de sacs à épaules, sacs de plastique. Elle achète son téléphone, puis par la suite, elle va tout de suite regarder dans la fenêtre de la station-service, et puis là, elle quitte pas la station-service pour l'instant. Elle regarde. Ça prend plusieurs minutes avant qu'elle décide à quitter. Elle semble observer comme si elle voulait attendre que quelqu'un d'autre parte, peut-être. Moi, quand je regardais ça, c'était un peu... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'attend ou qui me cherche dans le stationnement, puis je vais attendre qu'il parte avant de sortir. Je sais pas si tu as eu la même impression.
J'ai eu exactement la même impression que toi. C'est vrai que ça donnait vraiment cette impression-là. Juste le regard qu'elle projetait ou qu'elle jetait vers l'extérieur, c'est sûr qu'elle vérifiait la présence de quelqu'un. Là. Ça peut pas être autre chose. C'est pas la météo ou quoi que ce soit. Là. Il y avait pas une pluie torrentielle. Elle attendait seulement que ça cesse. On voit vraiment qu'elle semblait inquiète.
Par contre, on ne voit pas ce qu'elle voit.
Non,
on voit, la caméra est de l'intérieur de la station-service, donc on voit le comptoir où on peut faire des achats, puis on voit la porte d'entrée, je présume, pour spotter là un criminel qui entre, pour pouvoir l'identifier. C'est assez basique, mais on ne le voit pas assez loin là, dans la cour de la station-service pour voir, par exemple, un modèle de voiture ou quoi que ce soit qu'elle aurait peut-être aperçu. On continue la chronologie. Vers midi ce 28 novembre-là, elle aurait été aperçue à la bibliothèque de la ville, là où elle va souvent lire. Apparemment qu'elle va souvent dans la section pour enfants afin de lire là, des romans dans cette section-ci. Un peu plus tard, et là il y a un peu un trou là, dans la chronologie qu'on n'arrive pas à trouver, à 17h54, donc en fin d'après-midi, elle est retournée à la même station-service, donc le fameux 7-Eleven sur Government Street, pour acheter cette fois-ci une carte de crédit prépayée pour $200. encore une fois, elle est capturée par la vidéo de surveillance. Donc, elle vient de faire des achats, quand même un téléphone cellulaire prépayé. Je veux dire, c'est pas non plus, ça doit pas coûter des milliers de dollars, mais...
Non, mais quand même.
Peut-être en pas loin de 100 dollars, par exemple.
Minimum. Là.
Et là, elle vient de s'acheter une carte de crédit prépayée de 200 dollars. Donc, Emma a quand même des moyens. Oui. Elle a quand même, même si elle semble, je dirais que vers la fin, vers sa disparition, elle avait quand même un look, comment dire, j'hésite à dire pauvre, mais elle pourrait être confondue pour une itinérante, par exemple. J'essaie de peser mes mots, alors que quelques mois auparavant, c'était tout le contraire. Mais avec le temps, ça s'est dégradé comme ça. Mais c'est pas faute d'argent. Parce qu'elle a quand même des moyens. Elle a sa minivan qui est remplie d'effets personnels. Elle a un ordinateur portable, donc potentiellement des revenus, en fait.
Oui, elle a même des sous dans son compte de banque. Donc, c'est vraiment pas un problème d'argent.
Et que comptait-elle faire, donc, à ce moment-ci, à 17h54, avec sa carte de crédit? On ne le sait pas. Mais par contre, selon les témoignages, elle aurait quitté le refuge pour femmes, donc le Sandy Merriman, vers 18h. Donc, ça laisse 6 minutes, en fait, pour revenir de la station-service et d'aller check-out, quitter le refuge. Elle a attrapé un taxi, puis elle a demandé à être amenée à l'aéroport. Cependant, elle a quitté le taxi en cours de route, faute d'argent, même si elle avait acheté auparavant, quelques minutes plus tôt, une carte prépayée de 200$. Donc, c'est quand même assez étrange. Apparemment que le chauffeur de taxi a déclaré que, suite à cette conversation-là qui n'a mené nulle part, Emma lui a dit « Est-ce que tu peux simplement me laisser dans la voiture de taxi, continuer à tourner autour du bloc jusqu'à ce que t'aies un appel? » Donc, elle aurait resté quelques minutes comme ça dans la voiture du chauffeur de taxi qui l'aurait ramené exactement là où elle l'a prise auparavant. Est-ce que vraiment elle voulait fuir parce que elle demande au chauffeur de taxi de l'amener à l'aéroport, mais elle peut pas s'y rendre faute d'argent parce que je pense que le chauffeur de taxi lui a dit que ça coûterait 60$ ou quelque chose comme ça. Et puis elle, je sais pas si elle a fait le calcul dans le sens que est-ce que sa carte de crédit prépayée de 200$, c'était le montant d'un vol, par exemple, vers une destination qui doit pas être très exotique là, à ce prix-là, puis qu'elle a calculé, elle a soustrait peut-être le 60$ de son 200$, puis ça ne marchait plus avec son billet. Je sais pas, peut-être...
J'en suis arrivé à la même conclusion que toi, en fait, parce qu'il y avait une raison, là. Tu sais, c'est pas nécessairement le prix pour se rendre à l'aéroport, mais c'est qu'elle n'ait pas pensé à cette... Dans le fond, pour elle, ça devait coûter moins cher que ça. C'est cet aspect-là aussi que je trouve bizarre. Puis qu'elle a pris cette décision-là de prendre le taxi pour aller à l'aéroport, puis tout de suite, immédiatement, je me demande si c'est pas passé quelque chose dans sa tête. Parce que quand elle a demandé au chauffeur de taxi, le chauffeur de taxi n'était pas systématiquement d'accord avec le fait de la conserver dans la voiture. Mm-hmm. Et elle insistait, puis à un moment donné, il s'est un peu tanné. Et c'est là qu'il lui a dit de quitter. Et elle s'est pas trop obstinée et elle a quitté finalement. Puis lui-même, il disait qu'elle semblait dans un état de paranoïa. Là. Il semblait pas bien avec elle-même, qu'elle semblait avoir peur de quelque chose.
Mais n'oublions pas aussi que son passeport a été retrouvé dans sa Mazda MPV, dans sa petite minivan. Donc, elle voulait quitter comme ça vers l'aéroport, mais sans passeport.
Ah, c'est étrange. Hein?
C'est assez étrange. Mais par contre, on ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Hein, en fait, les informations arrêtent presque là. À 19h, dans la même journée, donc toujours le 28 novembre, elle a été vue marcher pieds nus devant l'hôtel Empress, qui est un hôtel très prestigieux dans la région à Victoria. Une de ses connaissances, qui est Dennis Quay, a appelé le 911 pour dire qu'une femme était en grande détresse devant l'hôtel. Donc lui, il a déclaré aux autorités que c'est en traversant la rue, donc sur ce coin de rue quand même assez achalandé de Victoria, en traversant la rue, il aurait aperçu Emma, là, vêtue de la même façon dont on vous l'a décrit, des pantalons très amples, une tuque, pieds nus, encore une fois, froide soirée de novembre. Et là, il aurait commencé à lui parler à Emma. C'est pas des grands amis, donc ils ont pas eu de conversation très intime. Mais par contre, Dennis a quand même senti qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se déroulait. Lui, il a continué son chemin, mais il a quand même pris le soin d'appeler les policiers qui sont venus la rencontrer quelques minutes plus tard. La police de Victoria est arrivée. Et évidemment, elle a pris le nom d'Emma Filipov en note. Elle lui a demandé son nom et tout ça. Ça s'est bien passé. Et elle a passé 45 minutes à lui parler. Décidant qu'elle n'était pas une menace pour elle-même ou ni pour quelqu'un d'autre, ils l'ont libérée et puis personne n'a rapporté avoir vu Emma depuis 20 heures ce soir-là. Donc les dernières personnes à l'avoir vue officiellement, ce sont les policiers de Victoria. C'est vers 23 heures que Shelley Philipoff, donc la mère d'Emma, débarque à Victoria. Donc elle a pris un vol de Perth, Ontario, et elle se dirige vers le Sandy Merriman, donc le refuge pour femmes. Et plus tard dans la soirée, donc une heure plus tard, vers les environs de minuit, la police rejoint Shelley au Sandy Merriman, où vraiment ils vont discuter avec les policiers et déclarer Emma Philipoff comme étant portée disparue. Donc sa mère est arrivée quelques heures seulement, on parle d'environ 3-4 heures seulement, après que sa fille a été aperçue. Elle s'en est mordu les lèvres d'avoir manqué sa fille de si peu de temps.
Initialement, la police a déclaré qu'Emma avait été vue pour la dernière fois avec des amis à plusieurs parties de maison sur l'avenue Burdett, entre les rues Blanchard et Quadra. Les enquêteurs ont exploré, dites-vous, plus de 200 pistes, mais la plupart avaient quand même des informations assez minimales. La plupart des preuves indiquent qu'elle prévoyait retourner à Ottawa, mais il n'y a aucune preuve d'elle qu'elle ait quitté la ville. Elle n'avait pas de cellulaire non plus. Actuellement, quand les gens ont des cellulaires, c'est beaucoup plus facile de les tracer. Ce n'était pas son cas. Le 23 novembre, donc quelques jours avant sa disparition, la caméra de sécurité du YMCA de Victoria nous montre Emma, et ça c'est vraiment particulier là,
oui.
C'est vraiment étrange, qui entre et qui sort à plusieurs reprises. En fait, c'est 6 fois qu'elle entre et sort du YMCA. Elle semble encore une fois surveiller quelqu'un de l'extérieur et vouloir l'éviter en fait. Mais ça s'est passé avant l'achat du cellulaire. Donc déjà, dites-vous que quelques jours avant, elle semblait déjà dans un état de paranoïa, qu'il soit véridique ou non, mais il y a une preuve tangible sur les caméras de sécurité.
Ça rappelle un peu Elisa Lam, pour ceux qui ont écouté en fait notre épisode 2, parce que toutes ces images-là sont disponibles sur le web, hein. Ça a été sorti par les policiers, c'est disponible sur YouTube, évidemment à des fins d'identification et tout ça, et puis c'est assez troublant voir ça, le voir Emma qui entre, qui sort. On sait pas trop qu'est-ce qu'elle va faire au YMCA, en fait. On sait que les YMCA parfois ils offrent plusieurs services là, pas juste des cours de sport là. Il y a des services d'aide, même des refuges dans certains cas, et puis elle entre et elle sort à plusieurs reprises. Elle semble vraiment seule, elle n'est pas accompagnée, il y a personne qui la suit manifestement selon les vidéos, et puis elle va faire plusieurs allers-retours là, toujours vêtue de la même façon avec plusieurs sacs sur elle, comme si elle traînait là, presque sa vie là, dans des gros sacs d'épicerie là.
Ouais, c'est vraiment typique, c'est limite comme l'itinérance, hein, comme tu disais. La carte de crédit prépayée qu'elle a achetée précédemment, justement, elle a été retrouvée sur le bord de la route, mais en dehors de Victoria, plus au nord, par un étranger. La seule chose qui a été, on vérifie l'utilisation de la carte de crédit, bien évidemment, la seule chose qui a été achetée, c'est des cigarettes, en fait, parce que la police l'avait quand même mis tout de suite sur le tracking, là, si on veut, la carte de crédit pour justement vérifier les activités. C'est une procédure assez classique pour essayer de repérer quelqu'un. Là, la carte de crédit laisse toujours beaucoup de traces. Dans ce cas-ci, comme on vous dit, il y avait juste un achat de cigarettes. Le téléphone portable qu'elle possédait, qu'elle a acheté, n'a jamais été activé, imaginez. Donc, elle ne l'a jamais utilisé. Encore un autre truc assez étrange par rapport à ça.
Donc, elle aurait perdu ou se serait fait enlever sa carte de crédit prépayée là, dans les heures suivant sa disparition, puis son téléphone cellulaire n'aurait jamais été activé. C'est quand même assez spécial. Ça laisse sous-entendre que les choses se sont passées très vite après sa disparition, j'ai l'impression, comme si tout était arrivé le soir même.
Oui, puis vraiment pas comme elle le voulait. Du moins, si on, je pense pas qu'elle ait planifié tout ça, si elle a fait justement l'action d'acheter le téléphone. Et c'est vrai, il y a eu un événement, là. Il s'est vraiment passé quelque chose qui est arrivé à ça. Emma, comme on vous disait, elle avait beaucoup l'habitude d'écrire des pensées, des écrits, et ça l'a quand même beaucoup servi, à l'enquête ou à essayer de déterminer son état psychologique. Hein. Mais particulièrement, généralement, c'était très poétique, un peu, je reprends un peu les mots de sa mère, là, mais comme elle disait, c'est beaucoup des messages cryptiques, mais elle ne dénotait jamais vraiment des intentions de suicide dans ses écrits. Par contre, sauf le dernier écrit qui a été retrouvé, que lui, par ses paroles très poétiques et très sombres, là, ça semble être une autre histoire, ou du moins un appel à l'aide assez criant.
Ben, c'est sûr que pris dans un contexte comme celui-là, être les parents, c'est assez troublant. Mais en même temps, sachant que Emma était quand même quelqu'un qui était un peu sarcastique en humour et tout ça. Bon, je vais vous en lire des extraits si on veut. En fait, c'est un truc qui a été retrouvé sur son ordinateur, qui est un poème qui a été trouvé sur son laptop. À tout le monde, donc to everyone from dead Emma. Hello. I figure someone will be on this computer at some point and will read this. Okay, so I'm dead. Floating about on energy or not, watching dying stars, reviving stars, and dreaming milky dreams and shadow dancing on your timelines, or whatever. Good luck, every heart. I love you. Signé M. Donc, ça semble être un message comme quoi elle indique qu'elle est décédée. C'est sûr que c'est troublant. Ça pourrait être interprété par une lettre de suicide. Ouais. Mais en même temps, on dirait que je vois même un peu d'humour et de sarcasme dans ce poème-là.
Effectivement.
Je trouve pas qu'on s'entend de dépression ou de parfois les lettres de suicide qu'on a vues dans le passé, c'est souvent très direct. On va y expliquer des raisons. Parler de notre héritage de sorte. Dites à un tel que je l'aime ou je sais pas trop.
C'est plus explicite, en fait.
Oui, c'est plus explicite. Ça, ici, c'est très vague. Ça pourrait être interprété comme un message du genre « Ah, t'as trouvé mon ordinateur, voici ce qui t'attend en fouillant un peu. » Mais c'est vrai que pris dans ce contexte-ci, j'ai pas le choix de le dire, c'est aussi un message qui porte solidement à confusion puis qui peut laisser croire qu'elle était sérieuse dans cette démarche-là puis qu'elle a peut-être causé l'irréparable, en fait.
Même le refuge où elle se trouvait a affirmé que Emma, elle exigeait une intervention physique et médicale. Donc, ils ont détecté qu'elle avait un problème, là, et même sûrement par rapport à un danger pour elle-même.
Puis les gens de ce refuge-là, en fait, ont apparemment plusieurs informations au sujet d'Emma Filipov, mais qu'ils n'ont pas pu révéler à la famille. Sans doute que les policiers en savent un peu plus, mais eux, ils auraient évidemment fait des entretiens avec Emma pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, ne serait-ce que pour son admission au refuge. Ouais. Donc, il y aurait de l'information qu'ils n'auraient jamais divulguée à la mère, donc à Shelley. Pas beaucoup d'avancement de ce côté-là, pas beaucoup d'indices qui ressortent de ce Sandy Merriman Shelter, si on veut. La mère, elle, Shelley, va rester dans les environs de Victoria pendant plusieurs mois. Donc, elle va rester là, elle va faire le tour des endroits où sa fille a été vue. Et elle se dit toujours que elle a dit à ses anciens patrons, au Redfish Bluefish, qu'elle reviendrait pour la prochaine saison. Et apparemment que cette saison-là se déroule en février. Donc, il y aurait un événement ou quelque chose en février. Et donc, elle avait espoir que sa fille retournerait peut-être travailler à ce restaurant-là pour X ou Y raison. Et puis, elle est restée dans la région de Victoria là, jusqu'en février. Donc, plusieurs mois en passant Noël sans sa fille. Et Shelley Filipov, elle va aussi démarrer une page Facebook pour justement rassembler des gens, des internautes sur la recherche de sa fille. Cette page-là, en fait, je vous invite à la rejoindre, c'est Help Find Emma. Vous pouvez la trouver sur Facebook. Elle va vraiment coordonner tous les efforts de recherche à partir de cette page-là. L'histoire de Emma Filipov va faire boule de neige à travers le Canada. Oui. Ça va être rapidement diffusé dans les médias. Les gens vont partir à sa recherche parce que justement, les circonstances sont tellement hors du commun que ça attise l'empathie. Les médias s'en mêlent rapidement. Radio-Canada, la CBC, entre autres, vont couvrir les événements. Il y a énormément de recherches qui vont être faites. Il y a énormément de battues, de vigiles qui vont être tenues dans les quartiers d'un peu partout au Canada. C'est assez phénoménal de voir tous ces gens-là se rassembler autour de la disparition de quelqu'un. Et puis, c'est toujours actif maintenant. En fait, le groupe de Shelley est toujours actif. Oui. Et Emma a été vue à plus... Ben, Emma, est-ce que vraiment c'est elle qui a été vue? Mais il y a des gens qui ont rapporté avoir vu Emma à plusieurs reprises. Une de ces choses-là, c'est une fameuse photographie qui aurait été prise dans un café dans la région de Victoria où on voit justement une jeune femme qui ressemble énormément à Emma Filipov, un peu en angle, un peu ouais. de dos, qui est assis près de la fenêtre, et on croirait vraiment que ce serait elle.
Oui.
Par contre, les gens qui ont pris la photo ont démenti cette hypothèse-là assez rapidement, comme quoi ben ce n'est pas elle, c'est vraiment quelqu'un d'autre qui est sur la photo. Plusieurs personnes semblent l'avoir vue. Donc est-ce que ça serait possible qu'elle soit encore en vie? On le sait toujours pas, mais chose certaine, Shelley et les internautes ont contribué énormément à faire avancer les choses.
Puis elle est toujours disponible, hein, elle le mentionne, que vous pouvez lui écrire si par exemple, parce qu'on ne sait jamais, elle, c'était un peu son objectif aussi d'avoir une page Facebook, elle demande aux gens de partager, elle est certaine qu'avec l'appui de tout le monde. En fait, les médias sociaux, c'est comme si tu avais des yeux un peu partout. Avec ça, qu'elle va avoir de l'information. Elle dit aux gens, si on voit quoi que ce soit, de lui écrire sur sa page Facebook. Elle est pas seule à la gérer, mais elle est une des principales administratrices de la page. C'est elle qui gère un peu tout ça. Donc, si par un hasard, vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à communiquer avec elle via sa page.
Exactement. Au niveau des théories maintenant, ouais. parce qu'on a fait le tour de la chronologie des événements, on a fait le tour un peu de la personnalité d'Emma Filipov, c'est plein de mystères et il y a plusieurs théories quand même qui sont plausibles, si on veut. Une de ces principales-là, en fait, Seb, que je veux te parler, c'est celle qui implique un certain Julien. Je le prononce en français parce que c'est un Québécois. Puis ici, en fait, je veux pas du tout incriminer Julien. Non, là, je veux juste faire état des nombreuses coïncidences en fait qui sont arrivées dans sa vie et celle d'Emma. Parce que évidemment, Julien a été aussi suspecté par les policiers et notamment The Fifth Estate, qui est une série télé là, produite par la CBC. On fait un épisode sur Emma Filipov et Julien est quand même assez collaboratif, mais aussi incriminé d'une certaine façon. Donc,
oui, c'est vrai, effectivement.
Et bon, il n'y a pas outre que de nombreuses coïncidences, il n'y a pas de preuves tangibles, mais on va quand même explorer cette théorie-là parce que c'est une de celles qui est quand même assez assez plausible. Julien, c'est quelqu'un qui aurait rencontré Emma à Perth, en Ontario, justement où lui, il aurait quitté sa ville natale du Québec pour aller étudier l'ébénisterie. Il rencontre Emma en juillet 2011 lors d'un festival de musique. Non seulement leur rencontre provoquera là, une amitié un peu ambiguë, si on veut, mais il y aura aussi une série de nombreuses coïncidences étranges qui vont arriver entre les deux, qui vont toujours lier Julien à Emma au fil des années. Lorsqu'ils se rencontrent, Emma lui propose de se revoir dès le lendemain, donc très rapidement. Elle lui dit que elle ne fait pas de plan à long terme, donc c'est pour ça qu'elle lui propose tout de suite, demain, allons faire ça, allons voir tel concert. Ça semble être pour Emma une habitude là, de proposer des choses comme ça pour le lendemain. Ils vont donc aller à un concert le lendemain et le surlendemain, ils vont aller faire du canot dans la région de Perth. Les deux sont quand même assez sportifs, ils vont connecter assez rapidement. Ils vont se voir très fréquemment au cours du mois suivant. Ils vont prendre de longues marches, évidemment. Ils vont jouer du ukulélé parce que Emma Emma ne part pas nulle part sans son ukulélé. Apparemment qu'elle joue toujours les deux mêmes accords, mais qu'elle le traîne toujours avec elle. Ils vont avoir de longues discussions sur tout et rien, sur la vie en général, sur l'art. Et depuis ce temps, eh bien, Julien va devenir très attiré, voire un peu obsédé par Emma. Julien, il semble développer un certain amour pour elle qui est pas nécessairement réciproque du côté d'Emma Filipov, quoique elle adore sa présence, elle adore son amitié. Elle va aussi lui faire rencontrer sa famille, mais seulement en amis. Ils se seraient embrassés même là un soir sur un banc près du rail de chemin de fer et les choses, à partir de ce moment-là, ne seraient jamais revenues comme avant. Emma lui aurait annoncé qu'elle souhaitait quitter Perth à ce moment-là, donc possiblement pour vers l'ouest, mais sans lui dire aucun indice de plus. Et elle lui dit par le fait même que ce serait mieux qu'il ne se revoie pas. Donc elle souhaite un peu briser les liens, le démontrant que bon cet amour-là n'est peut-être pas réciproque. Et c'est là que Julien aurait tenté à plusieurs reprises d'appeler Emma en appelant chez ses parents constamment pour avoir plus d'explications. Un certain matin, alors que Julien n'a pas pas de retour d'Emma là, depuis plusieurs jours. Quelqu'un cogne à sa porte et c'est Emma qui est là avec son ukulélé et qui lui propose d'aller prendre une marche. Ils seraient allés marcher ensemble à ce moment-là, mais le climat serait demeuré quand même assez froid. Julien apprendra le départ d'Emma pour l'Ouest canadien via son père, en fait, qu'il va croiser dans la rue plusieurs temps plus tard. Donc, la fois où Julien apprend qu'Emma n'est plus à Perth, c'est lorsqu'il croise le père d'Emma sur la rue, en fait. Donc, elle lui a même pas dit qu'elle quittait. Il ne saurait pas vraiment où Emma est déménagée. Il va tenter à plusieurs reprises de rejoindre Shelley, la mère d'Emma, via Facebook, mais sans réponse. C'est là que le comportement de Julien va devenir un peu obsessif. Il va constamment appeler à la maison des parents, constamment envoyer des messages. Mais on le sait, hein, c'est possible. On connaît Facebook. Ça veut pas dire que parce que t'envoies un message à quelqu'un ici, là, je sais, c'est pas spécifié si Julien était son ami Facebook,
oui, effectivement,
à Shelley.
Oui.
Donc, quand t'envoies des messages à quelqu'un qui est pas ton ami, ben, c'est possible qu'il ne le voit pas tout de suite.
Non, ça tombe dans une boîte que moi-même, j'oublie toujours d'aller vérifier,
oui.
Là, les genres de messages filtrés non
lus. Les demandes de connexion,
exact.
Ces choses-là, les demandes de messages. Il va faire pareil avec le père d'Emma aussi. Mais jusqu'ici, tout va bien, si on veut, là. Mais à l'été 2012, imaginez-vous donc que Julien, il décide de quitter Perth pour Victoria. Apparemment, sans même savoir qu'Emma y est depuis un an, il explique que il a choisi cette ville-là après avoir vu que son groupe de musique préféré, qui est un band irlandais, allait y jouer en novembre. Il est aussi cycliste, puis lui, il explique que le climat là-bas, il n'y a pas de voiture, le climat lui permet de faire du vélo toute l'année. Donc pour lui, c'est la ville idéale pour lui, et en plus du fait que son groupe préféré va y jouer, donc il décide de partir lui aussi de l'Ontario vers l'ouest, et parmi toutes les villes disponibles à l'ouest, il se dirige à Victoria.
Permets-moi de dire que c'est quand même un peu étrange.
Oui.
Je veux dire, tu déménages pas dans une ville parce que ton groupe y va y jouer. C'est tellement éphémère.
Mais je pense qu'il était ouvert d'esprit, mais il se disait « j'ai besoin juste d'un élément
convaincre. » Oui, non, c'est ça, pour le déclencher.
Au lieu de lancer un dard sur une carte du monde, lui, il s'est fié à une date de tournée de musique. En octobre 2012, donc grosso modo là, un mois avant la disparition d'Emma, Julien travaille à Victoria, il travaille dans une boutique au centre-ville et il se dirige dans un café pour son lunch. Et devinez quoi? Il aperçoit Emma Filipov de l'autre côté de la rue. Coïncidence. Leurs regards se croisent. Apparemment que Emma est toute souriante, donc tout va bien. Elle traverse la rue pour le rencontrer, ils se font un câlin, elle semble heureuse de le voir. Julien va même indiquer qu'il n'ose pas lui demander qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, où elle habite et tout ça. Il se dit, j'irai pas trop loin, mais je vais quand même lui dire où moi je travaille. Et puis, je vais lui dire les jours où je suis présent à la boutique. Puis, si ça donne pour elle, elle viendra me voir. Donc, il lui dit ça. Puis elle semble lui dire que oui, pas de problème, je repasserai un jour. Par contre, elle ne viendra jamais le rencontrer à la boutique. Par la suite, Julien va faire un geste un peu suspect. Il se rend compte que son groupe préféré, le Irlandais, est en concert à Victoria. Et il va écrire répétitivement là, au père d'Emma sur Facebook pour lui demander d'inviter Emma à son concert. Et c'est là qu'il va indiquer qu'il... ce que lui prétend être une façon ironique, il va comme dire au père d'Emma qui la stalke, en fait.
Ouais.
Mais
qu'il l'épie
d'une manière ironique. Par contre, ça fait appel à l'interprétation. Hein?
Oui.
C'est un mot qui est peut-être pas approprié là dans
une connotation négative, mais ça veut pas dire que c'est vers là qu'on c'est pas ça qu'on veut nécessairement démontrer.
Exactement. Il n'aura pas de réponse encore une fois du père d'Emma Filipov qui n'a peut-être pas regardé ses demandes de messages sur Facebook. Peu après le concert, évidemment, il n'ira pas au concert avec Emma, mais il va encore croiser Emma dans la rue de Victoria. Donc, c'est quand même... c'est pas une petite ville, Victoria. Lui, il la croise sans cesse. Donc, un soir de novembre, il la croise dans la rue, mais là, Emma ne semble pas être dans le même état. Lorsqu'il lui demande si elle le reconnaît, elle lui répond qu'il a l'air de quelqu'un de familier, mais sans plus. Elle semble très triste et peu bavarde. Et ils vont se laisser... en face de la bibliothèque municipale. Donc, ils se croisent dans la rue. Julien explique qu'il la voit de dos. Il est pas sûr si c'est elle, mais il se met à accélérer, à marcher un petit peu plus rapidement pour avoir l'opportunité de faire le tour et de la regarder en face. Il se rend compte que c'est elle, puis il commence à lui parler, mais ça n'ira pas vraiment plus loin. Et là, le fait, la coïncidence qui est encore plus extraordinaire dans la vie de Julien et qui fait en sorte qu'évidemment, il sera suspecté par les policiers, c'est que il l'a croisé le 28 novembre, le jour de sa disparition. Julien, il va la rencontrer, il explique que alors qu'il était dans le bus, qu'il prenait l'autobus, il aperçoit une fille sur le bord du trottoir, mais qui fait face à la rue, donc elle semble pas... Elle n'est pas à un arrêt d'autobus, elle est comme vraiment sur le trottoir, puis elle regarde dans la rue un peu comme si elle attendait un taxi ou ouais, quelqu'un. Ouais, ouais. Là. Et Julien n'est pas sûr parce que la fille en question, elle a les cheveux en bataille, un peu comme une crinière. Elle porte vraiment plusieurs sacs sur elle, puis elle porte un manteau d'hiver là, trop grand pour elle, encore une fois. Julien, il est pas sûr. Il sort de l'autobus, il passe devant elle, et il va faire le tour là quelques reprises sur le côté et en face d'elle pour s'assurer que c'est bien elle. Et c'est effectivement Emma. Il lui demande si elle va bien et elle, apparemment qu'elle fait juste hocher la tête, le regard vide, donc elle lui donne pas plus d'informations que ça. Là. Il va quitter la scène, un peu découragé, en se disant « Ben écoutez, j'aurais donné tout ce que j'ai, je me rends compte qu'elle a pas plus de considération pour moi, je vais abandonner, selon sa version. » Donc c'est un peu une théorie, on se dit « Ok, est-ce que Julien serait impliqué dans la disparition d'Emma Filipov, étant donné toutes ces coïncidences? C'est dur à prouver, mais en même temps, en termes de chronologie, ça ferait presque du sens.
Ouais. Je trouve que qu'est-ce qui l'incrimine, Julien, c'est tout son passé, entre guillemets, là, avec Emma, de l'avoir épié, harcelé, il a pas accepté d'être friendzoné, là, de toute évidence. Quand tu t'en viens à communiquer avec les parents d'une amie pour vouloir la voir, on s'entend que c'est pas normal, c'est pas sain. J'ai pas l'impression que malgré tout ça, c'est lui qui a fait quelque chose juste par son témoignage. Je croirais pas qu'il semble l'aimer en plus. Donc, généralement, à moins d'être vraiment fou, c'est rare qu'on peut porter à l'acte. Donc, moi, au début, je le mettais dans les suspects, puis on dirait qu'après coup, rapidement, je l'ai tassé à cause de ça. C'est vraiment le fait qu'il y a eu un drôle de comportement envers elle avant qui fait qu'on le suspecte vraiment parce qu'il y a eu un comportement étrange.
Ben, un peu comme toi, j'ai l'impression que Julien, ça se peut très bien qu'il se soit amouraché d'Emma comme plusieurs autres hommes qu'il a rencontre, mais que, écoute, j'ai l'impression que sa venue à Victoria, c'est peut-être pas un hasard.
Non, ça, y a rien de naïf, je suis certain.
Mais est-ce que vraiment il est impliqué dans cette disparition? C'est une bonne question, parce qu'en plus, il n'aurait pas de permis de conduire, donc c'est pas évident de kidnapper quelqu'un là sur son vélo. Là. C'est sûr qu'il y a plein d'autres façons de se procurer un véhicule. Là,
mais
on
quand
s'entend.
Même, c'est pas un mauvais argument.
Oui, exactement, mais je pense pas qu'il soit... Du moins, mon gut feeling là, me dit qu'il n'est pas impliqué.
L'autre piste intéressante qui est survenue quand même un peu plus tard, c'est l'homme au t-shirt vert. Il a vraiment été baptisé comme ça.
Et ça, c'est une histoire qui a été très populaire sur le web, où les internautes ont joué un grand rôle de tentative d'identification. Mmh. Même maintenant, c'est encore très actif, cette théorie-là.
Oui, parce que, justement, ça s'est déroulé dans le magasin de Joel et Laurie Sellen. En fait, eux, ils ont vu un homme rentrer dans le magasin. Et il y avait à l'époque, il y en a peut-être toujours, mais il y avait à l'époque des affiches qui annonçaient une récompense de 25 000 $, qui annonçaient la disparition d'Emma, là, où on connaît le format. Lui, il est arrivé devant l'affiche, il dit « Ça, c'est pas quelqu'un disparu. Ça, c'est des affiches de personnes disparues, sauf qu'elle n'est pas disparue. C'est ma petite amie, puis elle s'est juste enfuie pour parce qu'elle déteste ses parents. » Vraiment étrange, il déchire la pancarte, puis il se sauve. Dans le fond, là, les propriétaires ont appelé immédiatement la police. Bien que la vidéo de sécurité, on voit quand même assez clairement l'homme. Là. C'est sûr que c'est un peu flou, mais on peut quand même identifier. Il n'a jamais été identifié par personne. Ça a toujours resté inconnu, il n'est jamais revenu dans le magasin. Il n'y a eu aucune trace de ça. Mais son comportement est tellement étrange.
Oui.
Mais je me suis quand même demandé, est-ce que c'est la maladie mentale aussi, là, tu sais, quelqu'un out of nowhere? Mais il n'y avait pas l'air de ça. Il y a quand même quelqu'un dans son habillement ou quoi que ce soit. Il a l'air d'une personne du moins normale. Si on se fie juste sur l'aspect extérieur.
Ben oui, mais moi, je me dis en même temps, si c'est quelqu'un qui... si c'est vraiment le cas, en fait, si c'est vraiment sa petite amie, qu'est-ce que lui gagne à faire un geste comme ça, là, sachant que... que c'est un cas qui est hyper médiatisé, qu'un peu partout où on va, il y a des caméras de surveillance. Il est vraiment chanceux qu'il n'a pas été identifié par les réseaux sociaux et tout ça, parce que on l'a vu plusieurs fois, il y a des gens qui identifient des voleurs de n'importe quoi avec des...
Oui, c'est
en postant
facile,
sur,
oui.
sur Facebook. C'est très facile de faire de la recherche de cette façon-là. Donc, moi, j'arrive pas à voir le motif de quelqu'un pour avoir de telles affirmations. Puis en même temps, si c'est pas le cas, ben c'est quand même risqué. C'est-à-dire que tu rentres dans une boutique et puis tu déchires le poster d'une personne disparue. Et si c'est pas toi qui as fait ça, là, qu'est-ce que tu gagnes à mentir au caissier de cette boutique-là? Ça se peut très bien qu'il appelle la police tout de suite après, puis que toi, tu te retrouves dans une fâcheuse position pour avoir voulu troller les propriétaires d'une boutique, là. Donc, je comprends pas très bien, moi, cette situation-là. On dirait que j'ai de la misère à me faire une opinion là-dessus.
T'as raison, parce que moi aussi, je trouve ça vraiment étrange. Pour ça, quasiment que quand je trouve ça trop étrange, des fois, je le mets sur le dos de la maladie mentale. Parce que des fois, il y a des comportements qui sont tellement durs à expliquer rationnellement qu'on, je trouve que quand je me dirige vers ça, ça m'aide à rationaliser.
Il y a aussi une photo qui est survenue cette année, en fait, en 2017.
Oui, l'autre photo qui a été prise, elle a été baptisée la Skater Girls, parce qu'on voit une femme qui ressemble un peu à Emma, moi, de mon point de vue, et qui ressemble à Emma, mais vraiment là, accoutrée, encore pire que qu'est-ce que tu disais tout à l'heure. Là, elle semble un peu sale du visage, elle a des drôles de vêtements amples, le foulard sur la tête, et elle porte un skate à la main. Et cette photo-là a été quand même soulevée un peu l'émoi, si on veut, parce que les gens avaient l'impression que c'était Emma. Justement, sur la page de Finding Emma, elle a été republiée. Et quelques mois plus tard, c'était autour de février, je me trompe pas. Et au mois de mai, ça a été confirmé que l'identité de la personne sur la photo a été identifiée. Donc, et ce n'est pas Emma, malgré, c'est vrai qu'il y a des apparences, mais les petites nuances, souvent les gens, ils expliquaient en fait ces différences un peu physiques au niveau de son visage, au fait que justement si elle vit dans la rue ou qu'elle est tombée dans les drogues plus dures, c'est vrai que ça durcit les traits. Et j'imagine qu'on pourrait faire un peu ça, mais finalement ce n'est pas vraiment elle, mais on voit que les gens restent toujours aux aguets.
Oui.
Il y a toujours, la communauté, mais au moins, on peut classer les dossiers. Ça reste pas flottant.
Non, c'est vrai.
Fait qu'au moins, on peut passer à autre chose, pas comme l'homme vert, entre autres.
Puis ça, ce qui était phénomène avec cette histoire-là de la Skater Girl, c'est que c'est un photographe de Vancouver qui fait de la street photography, donc qui se promène, qui photographie des inconnus sur la rue. Et puis, c'est quelqu'un qui est membre du groupe de Help Find Emma qui a, en faisant le tour des photos de ce photographe-là sur son portfolio, a découvert cette photo-là avec quelqu'un qui ressemble à Emma. Donc, on voit le pouvoir des internautes au niveau des enquêtes et de l'identification de certaines personnes. Donc, dans ce cas-ci, ça n'a pas porté fruit, mais c'est quand même un bel effort de groupe et ça aurait pu être une piste fortement intéressante.
Absolument.
Toi, Seb, est-ce que t'as une théorie par rapport à la disparition d'Emma?
J'ai de la misère à camper sur une seule théorie, étant donné qu'il y a plusieurs volets. Je suis pas capable vraiment de me camper dans un camp ou l'autre, parce qu'à chaque fois, il y a un élément qui me dit « Ah, c'est peut-être pas ça ». Moi, sincèrement, j'ai la théorie que je crois le plus, c'est que j'ai l'impression qu'elle s'est enfuie dans les bois, et qu'elle était morte, elle s'est peut-être perdue dans les bois, pas retrouvée, ou suicidée. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là qu'elle est dans les bois. Et c'est dur à retrouver.
Pourquoi, hein? Pourquoi tu penses qu'elle est dans les bois?
Ben, pis nue, elle voulait se sauver le soir avec le taxi. Je sais pas, tu sais, elle était quand même toujours sur un état de paranoïa. Puis elle semblait s'enfoncer de plus en plus, donc vraiment perdre le contrôle de la réalité. Vraiment, ce qui se passe autour d'elle est totalement distorsionné. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'elle a dû sauver dans le bois, parce qu'il n'y a aucune trace de sa carte de crédit. Son téléphone n'a pas été utilisé. C'est tout de même étrange. T'sais, c'est sûr que peut-être qu'elle a vu qu'il y avait un avis de recherche, parce que l'avis de recherche est quand même fait rapidement. Là, c'était la journée même ou le lendemain, du moins à minuit ou quelque chose comme ça. Là. Donc peut-être qu'elle-même, soit qu'elle a vu ça, et elle a voulu carrément, elle a paniqué. J'ai vraiment de la misère à appuyer une théorie. Mais ou même kidnappée par quelqu'un, tu sais, elle a peut-être été malchanceuse parce que toute sa soirée s'est tellement pas déroulée comme elle le voulait. Mais je suis pas capable de dire, ah, c'est sûr qu'elle s'est suicidée ou c'est sûr qu'elle est enlevée. Il y a trop d'éléments. Toi, Émile, c'est quoi tes, qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Ben moi, ça me rappelle un peu, ça me rappelle le cas d'Elisa Lam d'une certaine façon, où oui. justement la maladie mentale dans son cas à elle, à Elisa Lam, elle prenait des médicaments, donc c'était diagnostiqué, mais par contre, elle n'en avait pas pris pendant une certaine période. C'est ce qui aurait pu provoquer, je veux pas vous divulgâcher notre épisode, mais les drôles de comportements qu'elle aurait eu. Dans le cas d'Emma aussi, un truc qu'on n'a pas mentionné plus tôt, c'est que les dirigeants du Sandy Merriman, le fameux refuge pour femmes, peu de temps avant sa disparition, ils l'auraient vu Emma sortir des meubles et des objets qui appartenaient au refuge sur dans la cour en avant du bâtiment. Et elle indiquerait qu'elle sortait dehors, à l'extérieur, parce que ces objets-là lui parlaient. Donc, elle avait vraiment une paranoïa assez intense. Donc, j'ai l'impression que la maladie mentale l'a sans doute fait perdre la carte un peu parce que, j'ai l'impression qu'elle voulait vraiment s'enfuir, ce qui explique la carte prépayée, le téléphone cellulaire, le taxi.
Des choses dans son auto
oui.
aussi.
Oui, il faut pas oublier qu'apparemment qu'elle avait 4 000 $ dans son oui. compte en banque oui, aussi. Oui. Donc, elle était pas à la rue, Emma Filipov. Et j'ai l'impression qu'elle voulait peut-être se sauver de quelqu'un qui était peut-être réel ou pas,
oui.
Mais que les choses ont mal tourné. J'ai l'impression que dans l'état mental où elle était, elle a peut-être pris une mauvaise décision à quelque part. Elle a perdu sa carte de crédit. Sa carte de crédit a été retrouvée par quelqu'un qui s'est acheté des cigarettes. Donc,
ouais.
Il est arrivé un événement ce soir de 28 novembre-là. Moi, j'en suis convaincu. On dirait que lorsqu'on me demande vraiment ce que j'en pense et non ce que je voudrais en penser, mais... Ce que j'en pense, c'est que j'ai pas l'impression que ça a bien fini pour Emma Filipov. J'ai l'impression que dans une situation de psychose comme ça, qui est non traitée, c'est possible qu'elle ait pris une mauvaise décision, qu'elle se soit retrouvée avec quelqu'un qui lui a peut-être fait du mal, ou qu'elle soit peut-être décédée par ses propres moyens, qu'elle soit peut-être... Elle a peut-être, terminé en hypothermie à quelque part, ou elle s'est peut-être suicidée, ce qui serait explicable via le mot qu'elle a laissé sur son ordinateur. Ce que je crois pas, par contre, dans certains cas, je peux le croire, mais dans ce cas-ci, c'est la disparition avec la nouvelle identité et tout ça.
Non, moi non plus, je crois pas.
Parce que j'ai l'impression que Emma n'était pas prête mentalement à un move comme ça, on le sait. Ça prend une coordination extraordinaire, disparaître, c'est pas facile. Quitter le pays, c'est pas facile, sans passeport. Se refaire des papiers, rester dans l'anonymat, c'est vraiment pas évident. Et aussi, même si on nous dit, on sait que plusieurs personnes disparaissent dans la rue, en fait, en devenant itinérants, réussissent à se fondre un peu dans la masse. Mais par contre, on sait, Shelley est resté plusieurs mois dans la région de Victoria. Le mot s'est énormément passé. On réussit quand même à retrouver des gens dans la rue grâce aux travailleurs sociaux, aux policiers, aux gens qui patrouillent. Et puis, Emma, elle a quand même un profil unique. C'est quand même quelqu'un qu'on reconnaît. Donc, j'ai de la misère à croire aussi, à moins qu'elle soit vraiment dans un endroit hyper éloigné. Oui. Mais j'ai de la misère avec cette théorie-là, la disparition volontaire.
Je suis du même avis. Je suis du même avis de toi pour ça. Je crois pas qu'elle est à quelque part d'autre. J'ai même beaucoup de doutes. Souvent, je me demande toujours les gens, est-ce qu'ils sont encore vivants? Puis dans son cas, mon instinct me dit vraiment que non. Puis c'est triste, hein, parce que la mère, encore une fois, elle peut pas faire son deuil. Elle est pas morte, donc les théories doivent toujours flotter dans sa tête. Imaginez, nous, on est déchirés entre les théories. Imaginez l'état de sa mère.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Je suis comme toi. Je crois pas à une disparition pure et dure. Elle n'a pas refait sa vie avec quelqu'un, c'est certain.
Donc c'est très triste cette histoire, et vraiment il y a plusieurs pistes. Si ça vous dit d'en discuter plus longuement, chers auditeurs, vous pouvez le faire sur le groupe de Distorsion, le groupe de discussion en fait de Distorsion. Sur le groupe de discussion Facebook de Distorsion que vous pouvez trouver au facebook.com/distorsionpodcast. Vous allez voir, le groupe est très bien affiché là, sur la barre de côté à gauche, ou sinon en haut de la page. Et vous allez voir, il y a plein de gens qui sont là pour mener l'enquête avec vous et discuter et livrer des témoignages. Donc, on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire d'Emma Filipov, de sa disparition? Ça fait 5 ans ce mois-ci, donc c'est important. On va aussi prendre contact avec Shelley, la mère d'Emma, pour lui dire que justement on a fait un épisode sur sa fille, et on vous reviendra aussi avec une entrevue avec Jordan de Nighttime Podcast qui a couvert le dossier de long en large. Donc on vous revient là-dessus le sous peu.
En plus du groupe et de la page Facebook, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter et Instagram. Sur Twitter, c'est Distorsion Pod. Sur Instagram, instagram.com/distorsionpodcast. Visitez notre site web si vous manquez des épisodes. Aussi, il y a des gens dans votre entourage qui savent pas trop comment s'abonner. Souvent, j'ai des questions par rapport à ça. Ils savent pas trop où, comment trouver nos épisodes.
On est partout.
On est vraiment partout. Donc, distorsionpodcast.com. Si ça vous tente pas de vous abonner à un podcast, vous pouvez les écouter directement en ligne, ou si vous êtes à l'extérieur ou quoi que ce soit, vous les faire écouter à des gens. Et il y a tous les boutons pour s'abonner sur les multiples plateformes, là, Stitcher, Apple Podcasts et Google Play. Donc, n'hésitez pas. Et toute autre application, il y a un fil RSS classique.
Oui,
aussi,
et Balado Québec aussi.
On est partout. On est rendu là. Émile, quel est le mot de la fin?
Si vous voyez quelqu'un en détresse, que ce soit une connaissance ou un étranger, n'attendez pas. Avisez tout de suite les autorités. Vous sauverez peut-être une vie.
Oui, monsieur.
Oh, yes.